Bonjour à tous, c'est une nouvelle profession qui est née sans crier gare et qui est en train de bouleverser le marché de la publicité. Les influenceurs font de plus en plus parler d'eux. Bonjour Marjolaine Corr.
Bonjour Jacques.
Vous allez nous expliquer comment ils mélangent souvent les genres et comment la réglementation peine à suivre. Et puis nous recevrons Xavier Monnier, bonjour également.
Bonjour.
Alors vous publiez Cannes Confidentiel, le rôle du pouvoir, des invitations assez surprenantes et des places très chères au marché noir. On ira voir avec vous ce qu'il y a sous les paillettes du Festival de Cannes.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Une anecdote qui est vraie. Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Et donc, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille.
Monsieur le Président, je pense que cette anecdote, elle est fausse.
Vous avez évidemment reconnu Emmanuel Macron, c'était en mai dernier. Il reçoit à l'Élysée Carlito et McFly, deux influenceurs avec qui il se livre à ce qu'on appelle, ou ce qu'ils appellent en tout cas, un concours d'anecdotes. Alors les influenceurs sont à ce moment-là sous le feu des projecteurs, mais au fait, c'est quoi un influenceur? Eh bien c'est ce qu'on va vous expliquer, on va commencer par là, Marjolaine Corr, à expliquer tout simplement ce qu'est cette nouvelle profession.
Alors un influenceur, c'est une personne qui dispose d'un compte sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok ou Snapchat principalement, et qui a réussi à rassembler un public assez nombreux. Les influenceurs peuvent lui parler de tout, souvent de mode ou de maquillage, mais aussi de matériel photo ou encore faire de la vulgarisation scientifique ou tout simplement mettre en scène leur propre vie.
Oui, un peu comme le font certains sur Facebook avec leur cercle d'amis.
Oui, sauf que les influenceurs, eux, ils ont énormément d'amis qu'on appelle des abonnés. Des followers, comme on dit dans le jargon.
Oui, c'est justement parce qu'ils ont tous ces followers, ces abonnés, qu'ils intéressent des marques et donc autour d'eux s'est créé un nouveau marché.
Oui, là où avant on achetait un espace publicitaire à la télé pour faire la promotion de son produit, eh bien on approche maintenant des influenceurs pour promouvoir des hôtels, des voyages, des vêtements ou du maquillage. Il suffit d'inviter un influenceur, de lui offrir des produits ou même de le rémunérer pour qu'il en fasse la promotion. Le potentiel de ce nouveau marché est énorme, comme le constate Garlane de Kerviller, qui est chercheuse à l'IESSEG.
Le monde de l'influence est complètement en croissance aujourd'hui. Il y a aujourd'hui 500 000 influenceurs actifs et les marques en fait s'emparent de ce phénomène. Et aujourd'hui, le marketing d'influence devrait atteindre 15 milliards de dollars d'ici 2022. Et la plupart en fait des stratégies marketing aujourd'hui intègrent une composante marketing d'influence.
Oui, elles intègrent le recours aux influenceurs. Maintenant, tous ne pèsent pas le même poids.
Non, ce poids, il est fonction de votre notoriété. Et il existe une classification des influenceurs en fonction de leur audience, comme nous le dit encore Garlane de Kerviller.
Alors, il faut savoir qu'il y a trois grandes catégories d'influenceurs. Il y a ce qu'on appelle les nano-influenceurs ou les petits influenceurs qui représentent la grande majorité, 80%, qui ont moins de 100 000 followers. Ensuite, on a en fait les... ceux qui sont au milieu, qui représentent 15% des influenceurs et qui ont entre 100 000 et 500 000 followers. Et on a seulement 4% qui sont des macro-influenceurs et qui ont donc plus que 1 million de followers.
Ah oui, 1 million, ça commence à faire beaucoup là.
Ça fait effectivement beaucoup, oui, mais même en disant cela, en réalité, on ne se rend pas compte de l'impact réel qu'ont ces influenceurs, car leur audience est désormais bien supérieure à celle des chaînes de télévision. Stéphane Bouillet a créé l'agence Influence for You et il observe que ce marché est en plein boom.
C'est un marché qui marche vraiment très fort. Là, on va parler de l'Euro, par exemple, au football. Si je prends les trois plus gros youtubeurs français, Norman, Cyprien, Squeezie, j'avais fait une étude là-dessus, ils avaient fait l'année dernière 81 vidéos qui ont fait plus de 19 millions de vues chacune. Et 19 millions de vues, c'est l'audience de la finale de la Coupe du Monde sur TF1. C'est-à-dire qu'ils ont fait 81 fois des émissions qui sont plus puissantes que la plus puissante des émissions de télévision. Donc on ne se rend pas compte de ça. Mais on a un basculement massif d'audience. Et nous, on doit éduquer les annonceurs pour leur dire, les anciens médias, il faut continuer à le faire parce qu'ils vont continuer à perturber. Mais il faut que vous réallouez vos investissements en marketing. Et nous, on voit depuis ces dernières années une explosion du marché de l'influence marketing parce que c'est un marché qui commence à devenir de plus en plus mature et qui s'adapte à tous les secteurs qui veulent cibler les moins de 35 ans.
Autrement dit, si vous voulez toucher les jeunes consommateurs aujourd'hui, vous devez passer par les réseaux sociaux.
C'est ça, et en faisant de la publicité autrement, il n'est plus question de diffuser un spot qui s'intercalera entre deux programmes, mais bien de recourir à un influenceur qui va vanter les mérites d'un produit sur Internet. Et pour Garlane de Kerviller, l'impact est bien plus fort.
Pourquoi est-ce que les marques se sont emparées de ce phénomène? C'est parce que ça leur permet de contourner la méfiance des jeunes vis-à-vis de la promotion et de la communication publicitaire, en faisant en fait du placement de produits à l'intérieur du contenu des influenceurs, et donc en proposant finalement une communication plus naturelle et plébiscitée par les influenceurs, qui sont des personnes qui apparaissent comme des modèles pour la jeune génération.
Ouais, comme des modèles, et ces modèles, ils ont des profils très variés.
Oui, alors on va peut-être commencer par les plus éthiques, ceux qui respectent des règles. C'est le cas de Léo Grasset, un influenceur qui est à la tête d'une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique qui s'appelle Dirty Biology. Lui, son but, c'est de faire de la pédagogie. Mais il contracte aussi des partenariats avec des marques qui peuvent lui rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et dans ce cas-là, il annonce la couleur.
Alors en fait, il y a deux cas de figure sur ma chaîne. Il y a le premier type où je fais une vidéo, n'importe laquelle, et je vais parler d'un sujet qui n'a aucun rapport avec le partenariat, et à la fin de la vidéo, eh ben, je vais mentionner la vidéo qui a permis de payer tout ça. Il y a l'autre cas de figure où là, en fait, on va faire un partenariat avec une boîte qui a un lien avec le sujet dont la vidéo va traiter. Par exemple, je parle de la réalité virtuelle et en fait, en fil conducteur, je vais mentionner de façon un peu régulière un jeu vidéo qui traite beaucoup de réalité virtuelle. Et donc, toute la vidéo, en fait, va être payée par le partenariat avec Cyberpunk. Dès le début, les gens savent que c'est un partenariat, ils ne se feront pas tromper. Et à la fin, on mentionne le partenaire, on dit merci à eux d'avoir donné les sous, quoi, basiquement.
Ouais, donc là, on sait où on va.
Oui, alors certains pourront tout de même trouver ce mélange des genres discutable, mais au moins on sait ce qu'il en est. Tout le monde devrait d'ailleurs le faire. Les influenceurs sont censés signaler les publicités à l'aide d'un mot dièse, un hashtag sous leur publication. Alors ça peut être le hashtag sponsorisé ou hashtag partenariat, pour que l'abonné sache de quoi il en retourne quand on lui présente un produit.
Ouais, sauf que tout le monde ne le fait pas.
Effectivement. Écoutez Mohamed Mansouri, il est le directeur délégué de l'autorité de régulation de la publicité. Il a analysé 500 campagnes de publicité d'influenceurs et voilà ce qu'il a constaté.
55% des campagnes analysées identifiaient de manière explicite, de manière instantanée, de manière transparente la collaboration commerciale. 33%, on les considérait comme améliorables. C'est-à-dire qu'on avait un début d'identification, mais c'était pas suffisant. Et 12% n'étaient pas du tout identifiés comme tels. Il faut savoir qu'on avait mené un monitoring un an avant, et on était autour de 33% des campagnes qui étaient correctement identifiées. Donc clairement, il y a une tendance à l'amélioration. Il y a encore beaucoup de travail.
Et beaucoup de travail pour qu'on précise bien où est la frontière entre le contenu et la publicité. Et ce, d'autant plus, Marjolaine, que ces influenceurs, ils sont de plus en plus courtisés.
Oui, c'est notamment le cas des secteurs comme le voyage ou l'hôtellerie. Le Georges V, par exemple, à Paris, vient d'offrir un séjour dans une de ses suites à un couple d'influenceurs. Dans ce cas, le couple profite de la suite tout frais payé et il renvoie l'ascenseur en publiant une vidéo. Mais l'inverse est aussi vrai. Stéphane Ries, qui accompagne des restaurateurs dans leur communication, a constaté que de plus en plus d'influenceurs essaient de les démarcher pour déjeuner gratuitement.
Tous les jours, les restaurateurs reçoivent des demandes d'influenceurs ou de personnes qu'ils se revendiquent influenceurs ou rédacteurs en chef de leur blog. Et c'est assez bien fait parce que certains, en fait, ont carrément des plaquettes PDF avec derrière leur storytelling, quoi. En disant, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai 1 million de followers, j'ai un impact en un truc. Si derrière vous m'invitez, ça vous augmentera de la visibilité, quoi.
Et cette visibilité, elle est vraiment intéressante pour les restaurateurs?
Alors, pour les restaurateurs, pas vraiment. Écoutez encore Stéphane Ries, l'un des chefs de restaurant qu'il conseille, a fait un test en situation.
Il a pris 3 influenceurs. Il leur a donné en fait un repas. Ils se sont en fait photographés en taguant en fait l'établissement et en taguant le chef en disant c'est extraordinaire, en faisant en fait des stories en disant oh, c'est super bon, pour au final diffuser un code promo qui n'a généré que entre 0 à 3 ventes sur des comptes qui était suivi par plus de 200 000 followers.
Oui, mais en même temps, Marjolaine, ça peut se comprendre. Si vos 200 000 followers habitent dans le sud de la France, ils vont pas venir déjeuner dans un restaurant qui se trouve à Paris, à Lille ou à Strasbourg, non ?
Effectivement, pour ce type de produit, ça ne fonctionne pas vraiment. En revanche, pour tout ce que vous pouvez acheter sur Internet, alors là, ça marche. Et là, on entre dans une autre catégorie d'influenceurs, ceux qu'on appelle les influenceurs lifestyle, qui racontent leur vie et qui vont vous conseiller des séjours ou des produits de toutes sortes.
Par exemple ?
Eh bien, vous avez des grandes marques de vêtements qui vont surfer sur les valeurs positives d'un influenceur pour bénéficier de son image et booster leurs ventes. Mais vous avez aussi quantité d'offres de marques méconnues qui sont en réalité de fausses bonnes affaires.
De fausses bonnes affaires, c'est-à-dire ?
Eh bien, j'ai vu l'exemple d'une montre, soi-disant haut de gamme, d'une valeur estimée à 150 euros par l'influenceur. Il affichait une promo apparemment alléchante puisqu'il l'a proposée à 70 euros avec un code qu'il donnait à ses followers. Sauf qu'en réalité, on trouvait cette montre sur le site chinois d'AliExpress pour 1,50€.
1,50€ vendu 70 euros. Bon, cela dit, il y a pire que ça, Marjolaine. Vous avez aussi trouvé des offres carrément illégales.
Oui, qui relèvent de l'escroquerie, là. C'est le cas, par exemple, de cette jeune femme issue de la télé-réalité et qui se présente comme une ex-policière, ce qui met plutôt en confiance. Mais voilà ce qu'elle propose sur son compte Instagram.
On vient de me parler d'un super bon plan, là, donc j'ai vite pris mon téléphone pour vous en parler. Pour tous ceux qui souhaitent obtenir leur code de la route, si jamais il y en a qui ont déjà perdu leur permis ou quoi, ou qui veulent leur avoir, pour même ceux qui l'ont jamais eu, vous pouvez réceptionner du coup la carte, enfin le code en 24 heures et le permis de conduire c'est d'ici sous une semaine il me semble. Du coup voilà, donc tout est enregistré en instantané directement avec la préfecture, donc tout est carré comme en Corée. Donc pour tous ceux que ça intéresse, vous ajoutez le snap juste en dessous, regardez la vidéo qui va suivre et c'est carré.
Ouais, c'est carré, sauf que c'est une arnaque.
Évidemment, hein, aucune préfecture ne délivrera jamais un permis de cette façon. Mais ce genre d'offre est assez courante et ça touche un éventail incroyable de domaines. J'ai rencontré Audrey Chipot, qui fait de la prévention sur sa page Instagram baptisée Star Réalité. Elle y recense les plus grosses arnaques et elle constate que les faux permis de conduire ne sont pas des exemples isolés.
Dernièrement, là, on a eu la vente de faux passes sanitaires. J'ai pu aussi constater énormément de ventes de contrefaçons, de produits de luxe, et puis des conseils nous renvoyant sur des Instagram ou des Snapchat chez des filles pratiquant la médecine illégale, injection d'acide hyaluronique dans les lèvres, principalement c'est ça. Alors on a eu plusieurs types de concours sur Instagram qui touchent à la médecine esthétique ou à la chirurgie esthétique. Là dernièrement c'était effectivement une opération des yeux. Et qui se passait à l'étranger.
Oui, j'imagine qu'en cas de problème, on n'aura évidemment aucun recours possible. Bon, mais on a envie de vous dire, Marjolaine, si un marché aussi douteux monte en puissance, alors que fait la police ?
Eh bien, elle fait ce qu'elle peut. Hein. Mais il faut savoir que les arnaques sont extrêmement difficiles à réprimer, déjà parce que certaines de ces publications sont éphémères. Elles ne sont mises en ligne que quelques heures, puis disparaissent, mais aussi parce qu'il y a des vides juridiques qui bénéficient aux influenceurs, comme le relève l'avocate Océane Fontanlot.
Aujourd'hui, le législateur n'a pas prévu le cas de figure où l'influenceur serait responsable des communications qu'il donne pour des marques qui l'ont rémunéré. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de la profession d'influenceur, mais c'est une vraie profession. Et pourtant, vous avez tout ce qui est abus de confiance par un délégué syndical, un président d'association, un maire qui sont caractérisés. Mais on n'a pas encore eu d'escroquerie par un influenceur. Ça devrait être encadré parce que c'est toute notre jeunesse qui est impactée par ça, mais c'est pas normal que personne ne fasse rien.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors on a compris que les influenceurs sont une jungle, Marjolaine Corr, dans laquelle on va du mélange des genres aux véritables escroqueries. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est que des influenceurs français, eh bien on en trouve de plus en plus à Dubaï.
Alors pour être précis, il s'agit d'une certaine catégorie d'influenceurs, essentiellement ceux qui viennent de la télé-réalité, des émissions comme les Marseillais, les Anges qu'on peut voir sur la TNT. On a ainsi des stars comme Nabila, Caroline Receveur, Jazz ou Dylan Thierry qui gagnent plus de 100 000 euros par mois. Certains se vantent même d'atteindre 300 000 euros par mois. Eh bien ceux-là ont effectivement choisi de s'expatrier aux Émirats Arabes Unis.
Et pour quelles raisons ?
Bien déjà parce que Dubaï permet de s'offrir un train de vie luxueux en bord de mer avec des employés. C'est un cadre aussi qui permet de faire des photos paradisiaques pour alimenter ses réseaux sociaux. Mais bien sûr, l'argument principal, c'est l'attrait fiscal que représente Dubaï. Le seul impôt qu'on a à payer, c'est 5% de taxes sur ses revenus. Alors j'ai appelé Nabil El Moudni, qui fait partie de ceux qui ont choisi de s'exiler à Dubaï, et il assume ce choix.
En étant totalement honnête, en France, quand on gagne tant, on vous prend la même somme, voire plus. Et moi, c'est quelque chose dont je n'avais aucune connaissance. C'est-à-dire, avant d'avoir un comptable, avant d'avoir des avocats, et qu'on m'explique, bon, bah là, c'est comme ça, là, c'est comme ça, vraiment, je ne m'imaginais pas. Et je pense que beaucoup de personnes qui critiquent et qui disent, oui, c'est parce que eux-mêmes ne s'imaginent pas. Et s'ils étaient dans la situation, ce seraient les premiers à faire pareil.
On va faire pareil, donc, à s'installer à Dubaï pour échapper au fisc. Et apparemment, ils sont de plus en plus nombreux à le faire.
Oui, parce que les gros influenceurs qui gagnent confortablement leur vie ont provoqué un effet d'entraînement auprès de petits influenceurs qui, eux, ne gagnent que quelques milliers d'euros par mois en France. Écoutez l'avocate Delphine Galin, qui conseille habituellement des chefs d'entreprise à Marseille. Elle a vu débarquer dans son cabinet des candidats à l'exil fiscal d'un genre nouveau, âgés de 20 à 25 ans seulement.
Leur premier réflexe, ça va être de se dire, mais tiens, je vais aller créer mon entreprise à Dubaï parce que tout le monde y est. Il y en a une qui m'a dit ça une fois. Ils trouvent que c'est un réflexe classique que d'envisager d'aller installer leur activité, fût-elle modeste, et avec, j'allais dire, un revenu correct, mais qui n'atteint pas des montants très importants. Pour eux, il semble tout à fait naturel d'aller s'y installer. Et j'allais dire, ils n'ont pas forcément anticipé toutes les problématiques auxquelles sont confrontées les personnes qui font cette démarche.
Toutes les problématiques, c'est-à-dire ?
Eh bien, toutes les désillusions qu'on peut aussi connaître. Hein. On a assisté il y a quelques mois à des perquisitions chez Caroline Receveur, qui a plus de 4 millions d'abonnés. Elle a été rattrapée par le fisc, qui estimait qu'elle devait payer des impôts en France. Car pour l'avocate Delphine Galin, il n'est pas si évident que ça d'échapper au fisc français.
L'administration fiscale, elle va analyser ce résident a-t-il réellement ce qu'elle appelle le centre des intérêts économiques à Dubaï. Il suffit qu'une partie seulement de vos revenus soit issue du territoire national pour qu'elle considère que vous ne remplissez pas les critères vous permettant de bénéficier des régimes fiscaux avantageux du lieu où vous vous situez. Il faut être résident au sens global du terme, c'est avoir son lieu de revenus vraiment situé à Dubaï.
Et autrement dit, si l'essentiel de mes revenus provient de France, je reste imposable en France.
C'est ça, et depuis février 2021, le fisc dispose d'un nouvel outil, un décret qui lui permet de scruter les réseaux sociaux pour voir quelle est votre activité, déterminer votre train de vie et le pays dans lequel vous passez le plus de temps. Et puis, on a récemment créé un autre instrument, une task force coordonnée par la répression des fraudes qu'on appelle la DGCCRF. Rémi Slov, son porte-parole, nous précise de quoi il s'agit.
C'est une task force qui a été mise en place au début du Covid, animée par la DGCCRF qui rassemble un certain nombre d'administrations en charge de la lutte contre les arnaques. À ce titre, la DGFiP, la douane, les services de police et de gendarmerie, l'autorité des marchés financiers, enfin, un certain nombre d'administrations et de services sur ces sujets-là sont rassemblés et partagent des informations concernant les arnaques, au début sur le Covid, puis maintenant en étend le champ d'action. Ça permet aussi de faire des signalements croisés quand les faits repérés par un intéressent les autres.
Et ça donne des résultats ?
Là, il est trop tôt pour le dire, hein, mais ce qu'on voit, c'est que plus les autorités s'organisent et plus en face apparaissent des stratégies de contournement. Par exemple, la principale agence d'influenceurs de la télé-réalité, Shona Events, a créé une antenne à Dubaï, ce qui va permettre aux influenceurs exilés de justifier de revenus obtenus à l'étranger et non plus en France.
Mais alors, c'est quoi la solution ?
Eh bien, il y a au moins un secteur que les pouvoirs publics ont décidé de privilégier, c'est celui de la protection des influenceurs de moins de 16 ans.
C'est-à-dire ?
Bien, sur Internet, vous pouvez regarder des enfants qui sont filmés en train de déballer des cadeaux, en train de tester des jouets avec, bien sûr, des marques partenaires. On peut même les voir se lancer des défis assez surprenants autour de l'alimentation. C'est le cas d'Athéna et Calice, les deux petites filles de la chaîne Studio Bubble Tea.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?
24 heures manger sucré vs manger salé.
Exactement, vous aviez aimé la vidéo 24 heures manger chaud contre manger froid. Et là, ça sera manger salé contre manger sucré. C'est-à-dire qu'à chaque repas, vous allez manger soit 100% sucré, soit 100% salé.
Ne manger que du sucre ou du sel, c'est complètement irresponsable ce qu'on entend là. Non ?
Oui, mais ce n'est pas une vidéo isolée. Hein. Je suis tombée sur une autre vidéo vue 32 millions de fois où d'autres enfants doivent manger des bonbons ou ce qu'on appelle de la junk food à la chaîne.
Bon, et donc une nouvelle loi va les protéger ?
Alors en partie, en tout cas. La loi Studer, qui a été votée en octobre dernier, soumet les enfants influenceurs au même régime que les enfants acteurs ou les enfants mannequins. C'est-à-dire que les parents devront demander un agrément à la préfecture et la plus grosse partie de leurs revenus restera bloquée sur un compte jusqu'à leur majorité.
Ah, mais ça ne les empêchera pas de continuer de vendre n'importe quoi ou de lancer des défis aberrants là, comme celui qu'on vient d'entendre, non ?
Bah, c'est un peu ça, hein. Et c'est pour cela que Bruno Studer, le député qui est à l'origine de cette loi, estime que chacun des acteurs devrait aussi s'impliquer dans cette démarche.
Vous avez des entreprises qui ont une responsabilité, il faut qu'elles en répondent, parce que souvent elles font du placement de produits en utilisant ces enfants. Puis vous avez des plateformes qui ont des responsabilités aussi. Alors, comme ce sont des plateformes qui sont des entreprises internationales, très souvent américaines, on ne peut pas tout leur demander. Par contre, il y a un enjeu réputationnel pour elles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles puissent être accusées dans l'opinion publique d'être finalement peu regardantes sur l'exploitation d'enfants. Donc je pense que les plateformes vont jouer le jeu aussi pour faciliter les signalements, par exemple, auprès d'associations, pour faciliter les échanges de données, le tout, encore une fois, sous l'autorité du CSA, qui sera là aussi pour dire chaque année ce qui a été fait ou pas fait.
Ouais, le CSA, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais c'est quoi son rôle là-dedans ?
C'est le CSA qui va être chargé de réguler ce secteur. Sa prochaine fusion avec la DOPI va donner naissance à l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Et parmi ses prérogatives, il y aura donc la régulation des contenus sur Internet. Ce qui ne sera d'ailleurs pas simple, hein, si l'on en croit encore Bruno Studer.
C'est extrêmement difficile à surveiller parce que tout le monde peut se rendre compte de la quantité de vidéos qui sont... au moment où on se parle, par dizaines de gigaoctets publiés partout dans le monde et qui sont visibles en France. Et donc il faut donner au CSA le moyen d'être le plus efficace dans ce qu'il peut exiger, en termes de coopération notamment. Voilà, donc le CSA préfigure le nouveau régulateur qui va être créé dans les prochains temps, qui va justement être plus à même de contrôler ce qui se passe sur le numérique.
Ouais, donc en France, ça bouge, mais c'est aussi le cas au niveau européen.
Oui, et là, Bruno Studer estime qu'il est plus que temps parce que la législation européenne est complètement obsolète.
On évolue quand même encore aujourd'hui dans un cadre juridique qui est la directive e-commerce de l'année 2000. Et quand on dit l'année 2000, on se rend tout de suite compte que les smartphones n'existaient pas, que TikTok n'existait pas, mais que YouTube n'existait pas non plus, où c'était le début. Et on se rend bien compte que ce cadre juridique, il est à moderniser. Alors, il y a la directive SMA, Service de Médias Audiovisuels, qui va être aussi renforcer la capacité pour les États à regarder ce qui se passe dans ces plateformes. Mais c'est surtout deux directives qui arrivent dans les prochains mois, qui devraient essayer d'imposer toujours plus d'obligations à ces plateformes, qui aujourd'hui, il faut toujours le répéter, aux yeux de la loi, ne sont que des simples hébergeurs de contenu.
Oui, donc la solution, ce serait aussi de responsabiliser ces plateformes.
Oui, l'idée que défendent de nombreux politiques aujourd'hui, c'est de mettre une pression assez forte sur les réseaux sociaux pour parvenir à une régulation efficace, car on est là face à un public mouvant, avec des millions de publications chaque jour, et sur lesquelles il est difficile d'intervenir sans un soutien de ceux qui publient ces contenus.
Bien, merci Marjolaine Corr pour toutes ces explications. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez également y laisser des commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. Dans quelques instants, direction Cannes, où nous vous ferons rentrer dans les coulisses du festival. Let's sit around and drink some sake, and we can. C'est léger, c'est frais, c'est touchant. C'était I Know I'm Funny, Haha. Voilà, c'est écrit comme ça. C'est de la jeune américaine Faye Wester et c'est extrait de son nouvel album qui sortira vendredi prochain.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Xavier Monnier, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Cannes Confidentiel, c'est un voyage sous forme d'enquête dans les coulisses du Festival de Cannes, qui débutera d'ailleurs exceptionnellement cette année le 6 juillet prochain. Alors Cannes, c'est pour la vitrine, mais Cannes, le reste de l'année, ça se passe à Paris, c'est dans le quartier du Marais, c'est au siège de l'Association française du Festival international du film, une association dont vous dites que le conseil d'administration est très fermé, il y a un système de cooptation.
Tout à fait, il faut être coopté, parce que le Festival de Cannes, c'est l'une des plus grandes armes de la diplomatie culturelle française. C'est une association qui essaie de réunir à la fois toute la grande famille du cinéma et toutes les institutions publiques qui y participent.
Oui, alors il y a eu des périodes d'ailleurs assez particulières où les relations n'étaient pas toujours au beau fixe entre le président de la République et le président du festival. Vous expliquez par exemple que Gilles Jacob a eu des tensions avec Nicolas Sarkozy, que François Hollande a lui-même décidé, ou voulait en tout cas que Pierre Lescure lui succède, et Pierre Lescure devra laisser sa place, quand il partira bientôt, à une femme. Et ça aussi c'est une volonté du président de la République.
Nicolas Sarkozy puis François Hollande, ils ont eu un problème, on va dire, avec Gilles Jacob, qui n'était pas tant un problème directement avec Gilles Jacob.
Qui était président jusqu'en 2014.
Qui était président jusqu'en 2014, mais qui était présent au Festival de Cannes depuis les années 70. Donc, on va dire, il y avait à un moment une volonté de passer la main, de ne plus s'accrocher, et Gilles Jacob a réussi à convaincre Nicolas Sarkozy de faire un dernier mandat. En revanche, il n'a pas réussi à convaincre François Hollande de faire un dernier mandat. Et donc, François Hollande a demandé à ce que ce soit Pierre Lescure. Et c'est Pierre Lescure qui a été nommé. Pierre Lescure qui s'entend très bien avec le délégué général, qui est en fait le vrai patron du Festival de Cannes, le sélectionneur des films, Thierry Frémaux.
Alors là, on parle des relations entre le festival et le sommet de l'État. Mais il y a aussi les relations entre le festival et la ville de Cannes. Et vous rappelez les années Mouillot, Michel Mouillot, l'ancien maire de Cannes. Vous rappelez les tensions qu'il y a eu, Michel Mouillot essayant de demander toujours plus de places pour les Cannois, mais aussi pour lui. Il voulait une loge de 25 places. Mais ces places, on en distribue à des personnalités dont on se demande parfois pourquoi elles sont là. Aux cérémonies d'ouverture et aux cérémonies de clôture, on trouve le procureur de la République, on trouve le président du tribunal de grâce. La mairie distribue des places aux magistrats, aux policiers. Pourquoi tout ça?
Quand j'ai écrit le livre, je me suis rappelé d'un film qui est un film culte, c'était La Cité de la Peur. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a ce fameux commissaire Bialès, donc joué par Gérard Darmon, qui se balade, qui se fait prendre en photo sur le tapis rouge. Ce commissaire Bialès, en fait, il a existé à Cannes dans les années 2000. Et effectivement, il était toujours invité, il était très médiatique. Pourquoi est-ce que le festival invite, ou la mairie invite, des magistrats, des gens importants? Ben, dans une relation, tout simplement, de clientélisme plus ou moins poussé. Pour les policiers, cela évite que le festival doive payer les forces de l'ordre pour leur travail, qui est un travail supplémentaire.
Vous donnez les chiffres, hein, ils sont 500 policiers pendant le festival contre 240 en temps normal.
Exactement. Et il y a toujours eu cette tension entre l'intérieur qui, parfois, quand ils se disputent avec le festival de Cannes, disent « bon, ben, on va vous envoyer la facture », qui n'a absolument jamais été réglée. Jules Jacob racontait même qu'une fois on lui avait donné une facture, il l'avait déchirée. Et c'est une forme de compensation pour les policiers, pour les remercier de leur travail.
Enfin, pour la hiérarchie policière, parce que les 500 qui sont sur le terrain, je ne suis pas sûr qu'ils aillent voir les films.
Les 500, non. Il y en a quelques-uns qui vont voir les films. Et pour la hiérarchie policière également, c'est pour, on va dire, fluidifier les relations.
Alors, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir disposer de place, il y a aussi un marché noir. Et là, vous donnez des chiffres. Vous dites qu'une place pour la cérémonie d'ouverture, on peut en trouver entre 2 800 € et 5 500. Enfin, c'est en dollars, en fait. Et 5 500 $, et vous citer aussi le chiffre de 6 000 $ pour la première de Rocketman, qui était le film donc produit par Elton John, avec une possibilité d'assister en même temps à la fête officielle où Elton John donnait d'ailleurs un concert. Et ça monte même jusqu'à 9 500 $ pour Once Upon a Time in Hollywood, qui était le dernier film de Tarantino.
Pour avoir des places pour assister aux séances, il faut que vous demandiez des places. Sauf que le Grand Théâtre Lumière, c'est 2 500 places. Il y a 40 000 festivaliers. Et donc, les plus chanceux ou les plus en cours ont leur place tout le temps. Les autres, c'est plus compliqué. Donc, il y a la version, on va dire, soft, devant les marches du palais, des gens qui sont, s'il vous plaît, une place. Et il y a la version dure, qui est un marché noir qui se développe. D'ailleurs, au début des années 2000, j'ai discuté avec des officiers du renseignement généraux qui étaient à Cannes et qui avaient bien vu que, oui, il y avait bien un marché noir qui existait et qui a été alimenté en partie par des gens qui faisaient partie de l'organisation du festival. L'officier des renseignements généraux avait alerté sa hiérarchie, et sa hiérarchie a dit « on va régler ça en douceur ». Et ça a été réglé en douceur avec une exfiltration de cette personne.
Alors un mot aussi de la presse. D'abord pour parler des accréditations. Vous racontez qu'il y a des badges avec des couleurs différentes, rose, bleu ou jaune. En fonction du badge, on a accès à certaines salles, certaines projections, certaines personnes et pas d'autres, ou personnalités. Et vous expliquez que Cannes, enfin c'est pas vous, c'est David Kessler, qui est l'ex-patron d'Orange Studio, mais vous le citez, explique que Cannes repose sur un système de caste.
Oui. Ces couleurs dont vous parlez, avec ce badge notamment blanc pour la presse, qui est une sorte de Graal, ça situe votre niveau social dans le cinéma et dans l'atmosphère cannoise. L'un des plus grands patrons de Sofica, donc de société qui finance les films et qui finance le cinéma, m'explique notamment que à Cannes, ce qui est horrible, c'est vous discutez avec quelqu'un, vous avez toujours votre badge autour du cou, et cette personne, si elle voit quelqu'un qu'elle juge plus important, elle interrompt la conversation sans dire au revoir ni rien et va vers la personne plus importante. Et c'est ça qui génère en plus des rivalités au sein d'un phénomène de cour auprès du service d'accréditation du festival, mais aussi des rivalités entre les journalistes qui sont assez tragicomiques.
Et puis vous expliquez que le festival prend en charge le logement d'un certain nombre de journalistes. Alors, attention, je pense que la grande majorité des journalistes payent son logement, mais certains d'entre eux sont toujours pris en charge, c'est-à-dire que l'hôtel est payé par l'organisation du festival. Et là, on se pose la question du conflit d'intérêts, c'est-à-dire comment être indépendant sur le traitement qu'on va faire des films qu'on voit, quand soi-même, on bénéficie d'un avantage de la part des organisateurs. Ils sont nombreux à profiter de ce privilège ?
Si je me rappelle bien des chiffres, ils sont un peu plus d'une centaine.
Ah, quand même.
Sur 4 à 5 000 journalistes, accrédités quand même. Mais ils sont un peu plus d'une centaine et c'était assez fascinant de leur demander mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts ? Et j'ai eu des réponses qui étaient non, on ne voit absolument pas en quoi il y a un conflit d'intérêts. Moi, alors, je ne suis pas un spécialiste et je ne veux pas me poser en père la morale ou en grand déontologue en chef, donc j'ai demandé au comité déontologique du SNJ. Qui m'a confirmé, oui, que c'était quand même, ça posait question, et certains journalistes m'ont quand même confié, oui, c'est vrai que c'est une pratique qui est étrange. Et ce qui est assez amusant, c'est que, on critique souvent la presse française, mais le Guardian, ils m'ont donné exactement les mêmes réponses.
Journal anglais, donc, grand journal anglais, un peu l'équivalent du monde.
Le plus grand, l'un des plus grands quotidiens anglais. C'est ça qui est assez fascinant, c'est à Cannes, on efface certaines règles.
Merci Xavier Monnier. Alors je précise que votre livre va beaucoup plus loin, il relate plein d'anecdotes, il retrace aussi l'histoire du festival, ses enjeux économiques, ses enjeux culturels. Il s'intitule donc Cannes confidentiel et je précise qu'il est édité chez Robert Laffont. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. Jean-Baptiste Audibert a choisi la musique et à la technique, il y avait Florent Bujon et Ludovic Asselot. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.